In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Le vampire, la créature considérée comme la plus populaire de la fiction d'épouvante, malgré le fait qu'elle ait bien changé en fonction des époques. Attends, ça je l'ai déjà... Je me répète. Bon, après une vidéo faite en 2018, il est temps de s'attaquer à la descendance de ces vampires. Car oui, les vampires semblent pouvoir se reproduire, et en particulier avec les êtres humains. Mais trêve d'introduction, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Étonnamment, lorsque l'on entend le mot « vampire » en français, on pourrait facilement avoir un indice sur le sujet. Les vampires sont des demi-vampires. Ce qui pourrait, en mélangeant le mot demi et vampire, donner le mot valise d'empire. Mais en vérité, ça ne marche qu'à l'oral. Car le mot d'empire tirerait ses origines de l'albanais. D'empire serait la déformation albanaise du mot slave yupir, qui signifie vampire. Ce même mot donnera d'ailleurs de nombreux dérivés comme vampir en polonais, yupir en tchèque ou en slovaque, ou encore yupir en russe. Et d'ailleurs, le terme d'empire est composé des mots d'emb, signifiant dent, et pire, signifiant boire. Donc littéralement, d'empire signifie boire avec les dents. Et du coup, c'est d'autant plus étonnant que l'on ait gardé ce terme de d'empire pour parler des demi-vampires à l'international, car dans d'autres régions des Balkans, on utilisait plutôt des termes comme vampirovitch, vampirovitch, vampirich ou encore lampirovitch, signifiant tous fils de vampire. Tous ces termes désignant en fait des êtres issus de la procréation entre un être vampirique et un être humain. Et on va pas se le cacher, particulièrement entre un vampire et une humaine.
Dans les faits, il n'existe que très peu de cas de femelles vampires recensés historiquement. Les caractéristiques pour devenir à l'époque un vampire sans être mordu sont diverses et variées. Pour rappel, les croyances les plus répandues sur les façons naturelles de devenir un vampire après la mort sont avoir été dans sa vie un esprit pervers, s'être suicidé ou encore être lié à la sorcellerie. Pour ce dernier point, chaque village avait sa propre définition. Certains pensaient même qu'un simple chat qui passait par-dessus votre cadavre eh bien devenait votre lien avec la sorcellerie. Et enfin, la façon dite célèbre pour devenir un vampire reste la morsure par un autre vampire. La croyance la plus répandue quant à l'origine de la transformation était que l'âme revenait dans son propre corps. Mais c'était alors une âme plus sombre que celle du vivant auquel elle appartenait. Pour rappel, d'autres folklores parlent seulement de remplacement par une âme démoniaque. Seulement. Quoi qu'il en soit, l'âme vampirique est considérée comme pervertie. Et l'une des croyances en lien avec tout ça se retrouve chez les Slaves du Sud. On pense alors que les vampires ont un grand appétit sexuel. Et qu'une fois revenu d'entre les morts, le vampire chercherait à avoir des rapports consentis ou non avec la ou les femmes qu'il aurait le plus désiré de son vivant. Que ce soit son épouse légitime ou non. Ce serait du fait de cette croyance autour de ce désir que l'histoire des demi-vampires aurait commencé à se propager. Enfin, du moins, ça, c'est la légende. Car d'un côté plus rationnel, ces croyances et ces mythes auraient été très utiles pour se sortir de situations, disons, plutôt complexe. Disons que l'existence des vampires et des sorcières à une certaine époque était tout de même bien pratique pour justifier des actes qu'on ne voulait pas trop assumer. Bon, on va partir sur un exemple, histoire que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'on essaie de vous expliquer. Sreten Petrović, un philosophe, culturologue et scientifique serbe, rapporte dans son livre « Mythologie serbe, le système de la mythologie serbe », une histoire contée par Muk Rušević, un linguiste, en 1811. Il dit qu'une veuve est tombée enceinte alors que son mari venait à peine de mourir. « Mon défunt mari, Milutin, s'est transformé en vampire. Et chaque nuit, il venait vers moi, vêtu de blanc, à travers un trou dans le mur. Chaque fois qu'il me quittait à l'aube, quand les premiers coqs chantaient, il me menaçait. « Si tu dis à quelqu'un que je viens à toi, sache que d'abord, toi, et ensuite tous les tiens, jusqu'à la 9e goutte de sang, je vous moissonnerai avec la faux de la mort. » Les villageois ont demandé au curé si cela était possible. « Se peut-il, mon père, qu'un jeune homme devienne un vampire et mette enceinte sa veuve ?» Le prêtre leur dit « Il le peut s'il est né avec une chemise ensanglantée ou si un animal à quatre pattes ou un pur est passé à côté de lui alors qu'il était mort gisant dans sa maison. » Les villageois acceptent alors de se rendre sur la tombe du défunt le premier jour de la semaine suivante en se disant « Si nous le trouvons enflé avec les yeux rouges, nous le percerons avec un pieu épineux et lui couperons les veines au-dessous du genou avec un couteau au fourreau noir afin qu'il ne revienne plus jamais. Et s'il se détériore, c'est que l'épouse n'est pas tombée enceinte de Milutin, mais de quelqu'un d'autre, comme c'était arrivé dans le village de Chuka. » Bon, l'histoire dit que le corps de son mari était bel et bien en train de se désagréger. Par contre, elle ne dit pas ce qui est arrivé à cette femme, ni à son enfant. On peut craindre le pire.
Toujours d'après Sreten Petrović, l'appétit sexuel des vampires aurait également servi d'excuse lorsqu'une jeune femme que l'on pensait vierge tombait enceinte, le futur enfant devenant aux yeux d'un village superstitieux un vampire, et donc souvent un paria. Enfin, quand la jeune femme avait le courage de rester dans son village. C'est con, hein ? À peu de choses près, on pouvait créer une religion avec ça. Quoi qu'il en soit, lorsque ce folklore s'est répandu, il y a eu le revers de la médaille. Des charlatans ont décidé de se faire passer pour des vampires. De là est née une nouvelle croyance. Lorsque ces escrocs arrivaient, ils faisaient croire qu'ils avaient la capacité de faire facilement la différence entre vampires et humains. Ainsi, ils débarquaient généralement lorsque la présence d'une rumeur vampirique se répandait dans un village. Ils prétendaient pouvoir les détecter et les éliminer. Contre rémunération. Évidemment.
Faut bien se donner un petit coup de pouce de temps en temps.
Bah, je comprends.
Après avoir mis en scène un spectacle bien élaboré, généralement à l'aide de complices, ils prétendaient avoir supprimé le vampire et pouvaient donc aller trouver de nouvelles personnes à arnaquer. D'ailleurs, dans le livre Le Vampire d'Ornella Volta, on peut lire la chose suivante. Si, dans le village où les faits déplorables se produisent, on ne dispose malheureusement pas de vampire, on en fait venir un du village le plus proche, tout frais payé, en sus de confortables honoraires. Ainsi est née la croyance selon laquelle les vampires pouvaient détecter la présence de vampires, faisant d'eux de très bons chasseurs de vampires. Mais ce ne serait pas la seule croyance qui s'est développée autour des vampires. Certaines évoquent les caractéristiques physiques de ces hybrides. D'une manière globale, la croyance voulait que les enfants demi-vampires soient particulièrement pâles, plus grands et plus minces que la moyenne, mais tout de même avec une forte carrure. Ils seraient également maladroits et auraient naturellement une attirance pour le morbide. Et il y aurait même des caractéristiques spécifiques en fonction des régions. Chez les Serbes par exemple, on disait que ces enfants avaient de grosses têtes avec des cheveux très sombres et en bataille. En plus des cheveux sombres, en Albanie, on rajoute qu'ils sont plus rusés et plus téméraires que les autres. Chez les Bulgares, en revanche, c'est beaucoup plus précis et aussi plus varié. On pensait par exemple que les enfants avec un nez ou des dents plus longs que la normale étaient potentiellement des demi-vampires. Ils auraient également un corps mou, sans ongles ni os. Et, comme la marque du diable pour les sorcières, les vampires auraient dans le bas du dos une marque rouge et profonde, comme s'il y avait eu une queue à cet endroit. Enfin, dans son livre The Vampire Book, The Encyclopedia of the Undead, le chercheur américain en études religieuses et président de la Transylvanian Society of Dracula, John Gordon Melton, ajoute que certaines régions des Balkans, sans préciser lesquelles, pensaient que, je cite, « les vampires avaient un corps glissant, semblable à de la gelée, et ne vivaient que peu de temps », rendant ainsi le vampire qui a réussi à survivre jusqu'à l'âge adulte particulièrement exceptionnel.
Bref, vous l'aurez compris, les croyances autour des vampires sont tellement spécifiques et tellement localisées qu'il était rare qu'un enfant soit qualifié de vampire. D'autant que, comme pour le cas de la veuve serbe, une simple vérification dans la tombe permettait souvent de démasquer un mensonge. Ajoutez à cela que concernant les vampires, qui était déjà une croyance bien plus répandue, eh bien on pensait que ces êtres venus d'outre-tombe étaient totalement stériles. Et ce, autant avec une humaine qu'avec une femelle vampire. Et puis, d'une manière plus rationnelle, plus actuelle, parlons deux secondes biologie et physique. Comment un vampire fait-il pour...
C'est pas vrai.
Mettre l'andouille à col roulé au garde à vous. Non, mais globalement, on peut considérer ou accepter l'idée que le vampire est encore du sang à l'intérieur de lui. Mais la caractéristique commune à tous les vampires, c'est quand même qu'ils sont morts. Donc que leur cœur ne bat plus. Et comme le cœur ne bat plus, le sang ne circule pas. Et il n'y a plus de pression sanguine non plus. Et du coup, pas d'irrigation. Et pas d'irrigation du corps, ça veut bien dire pas d'irrigation du pipou. Et je vous laisse méditer un peu là-dessus. Quoi qu'il en soit, le vampire n'a pas autant marqué le monde que son géniteur. Pourtant, c'est à partir des années 1970 qu'il fera son grand retour dans la culture populaire. Peut-être porté par des articles consacrés au folklore gypsy par Tatomir Vulkanovic dans le journal of the Gypsy Lore Society entre 1957 et 1960 en Grande-Bretagne. Ou encore par le livre Le Vampire de l'auteur franco-italienne Ornella Volta, consacré au mythe du vampire des Balkans. C'est en 1972 qu'un certain David Chase, le futur créateur de la série Les Sopranos, écrit une nouvelle nommée The Still Life. Cette nouvelle servira de scénario au réalisateur John Hayes qui réalisera le film Grave of the Vampire, ou en français, Les Enfants de Frankenstein. Oui, on sait, le nom du film est complètement hors de propos, on se calme les Québécois. On lui préférera le nom Bébé Vampire, qui lui sera attribué des années plus tard. Bébé vampire, donc, ou Grave of the Vampire, mettra en scène pour la première fois un demi-vampire issu du viol d'une humaine commis par un vampire.
Ce choix de mise en scène rappelle évidemment les vieilles croyances européennes. Preuve, s'il en faut, qu'au moins David Chase a travaillé un peu son sujet. Le film n'est, dans sa construction, pas particulièrement original, mais il aura une importance cruciale dans le style vampirique. Alors, hormis le fait que les héroïnes soient particulièrement mises en avant pour un film des années 70, il donnera un nouveau souffle au genre en injectant l'idée que les vampires puissent se permettre d'exister chez les buveurs de sang. Mais ce vampire a ses propres caractéristiques. Il s'agit d'un demi-vampire qui a besoin de se nourrir de sang, et ce, dès son plus jeune âge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Il semble également sensible à la lumière, deux particularités qu'on ne trouve pas dans le folklore européen. Par contre, son but est de trouver et de tuer son père. Ça, ça rappelle bien la croyance selon laquelle les vampires sont de très bons chasseurs de vampires. Enfin, et c'est aussi inédit, lorsqu'il tue finalement son père, il devient complètement vampire. Et non, c'est pas du spoil, hein. Le film étant sorti en 1972, si vous l'avez pas vu, c'est pas ma faute. Quoi qu'il en soit, ce film a été un premier pas vers la création de nombreux vampires, bien différents les uns des autres. Petite précision tout de même, le terme vampire n'est jamais utilisé dans le film. On entend le personnage principal, James Eastman, préciser qu'il ne pourra jamais partager sa vie avec un être humain entier.
I could never share life with whole human beings.
Sous-entendant alors qu'il n'est qu'un demi-humain. Mais jamais le mot vampire n'est utilisé.
L'année suivante verra l'apparition de vampires dans la BD Vampirella. En mars 1973, lors d'une courte histoire nommée The Cry of the Vampire, disponible dans le numéro 22 de la première édition, on découvre que les demi-vampires du monde de Vampirella sont assez similaires aux vampires, autant psychiquement que dans leur pouvoir surnaturel. Mais ils ont en plus la capacité de tuer un vampire par simple contact, faisant d'eux de parfaits chasseurs de vampires. Mais le vampire qui marquera particulièrement la pop culture arrivera seulement quelques mois plus tard. Il s'agit évidemment de Blade, le chasseur de vampires, qui fera son apparition dans le comics Marvel, The Tomb of Dracula de juillet 1973. Ce personnage, créé par Marv Wolfman et dessiné pour la première fois par Ginny Colan, est une histoire particulièrement travaillée. Pour commencer, son côté demi-vampire n'est pas dû à une quelconque relation entre sa mère et un vampire. En fait, un vampire a fait de sa mère son repas pendant l'accouchement et ses enzymes de vampire sont passées accidentellement dans le sang du bébé. Cela a eu pour conséquence, entre autres, de rendre Blade plus rapide, plus fort, nyctalope et invulnérable face aux morsures de vampires. Bon, sauf à celle de Morbius, mais parce qu'il s'agit d'un vampire créé en labo, faut pas déconner non plus. Il est capable de ressentir la présence d'autres créatures surnaturelles ou encore d'avoir une durée de vie prolongée. Son côté humain lui permet de se déplacer en plein jour, même s'il est légèrement sensible à la lumière. D'où les lunettes de soleil. Et évidemment, toutes ses capacités ainsi que la mort de sa mère feront de lui un terrible et redoutable chasseur de vampires. Il est également le tout premier vampire noir et arrive dans la pop culture américaine à peine un an après la diffusion du film Blacula.
En 1977, c'est l'Universal Monster Universe qui sera indirectement touché par la mode du vampire. Cette année-là, Ramsey Campbell, sous le nom de plume Carl Dreadstone, reçoit l'autorisation de faire une version romanisée du film La fille de Dracula, de 1936. Alors que dans le film La fille de Dracula est définie comme vampire, le livre de Campbell fait comprendre que la comtesse Maria Zelenska, la fille de Dracula, a pour mère une humaine. Et, sans doute sous l'influence de Blade, on nous ressort le coup de la femme enceinte qui s'est fait attaquer par un vampire. Dracula aurait donc attaqué une femme enceinte, donnant sans le vouloir ses facultés de vampire au fœtus, faisant d'elle la première vampire de l'Universal Monster Universe. Même si officiellement ça ne fait pas partie du lore de l'univers, puisque le film de 1936 ne le mentionne pas. En 1981, le film anglais Le Club des Monstres met en scène des vampires. Mais pas ceux que vous vous figurez. Ici, ce sont des hybrides issus de l'accouplement de vampires avec d'autres créatures, comme des loups-garous ou des ghouls. Dans cet univers, les humains ne sont pas là pour qu'on se reproduise avec, mais servent uniquement de nourriture. Deux ans plus tard, c'est au Japon qu'un vampire commencera à s'imposer. C'est en 1983 que débutera la série de romans Vampire Hunter D. Dee est issu d'un accouplement entre une humaine et un vampire. Il a alors toutes les capacités vampiriques, sans les faiblesses. Il est sans doute à l'origine de très nombreux vampires qui feront par la suite leur apparition dans les mangas ou la Japanimation. D'ailleurs, à peine deux ans après le premier roman, l'histoire sera adaptée dans un premier film nommé Vampire Hunter Dee, chasseur de vampires. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprendra qu'il n'est pas le seul demi-vampire, mais semble rester incontestablement le plus puissant des chasseurs de vampires.
On vous passe les quelques vampires qui ont pu passer lors de cette décennie, comme dans Scooby-Doo par exemple, pour arriver directement en 1989. Cette année-là sort le troisième opus de la saga de jeux vidéo Castlevania, Castlevania III Dracula Curse. Et c'est dans ce jeu que l'on découvre pour la première fois Sir Adrian Fahrenheit Tepes, plus connu sous le nom de Alucard. Et même si sa popularité n'arrivera qu'avec le jeu Castlevania Symphony of the Night en 1997, il est le fils de Dracula et d'une humaine nommée Lisa. La mort de sa mère et son éducation à aimer les humains font qu'il prendra les armes contre Dracula. D'ailleurs, son nom Alucard, qui est Dracula à l'envers, est censé être le symbole de l'opposition envers son père. La même année, Nancy A. Collins crée le personnage de Sonia Blue dans son livre La Volupté du Sang. Il s'agit d'une vampire possédant la majorité des atouts vampiriques, sans pour autant posséder leurs faiblesses. Mais sa particularité, c'est qu'elle est aux prises avec un syndrome de multipersonnalité, dont l'une d'entre elles, qui n'est pas forcément très très sympathique, faisant du Dampir une créature véritablement aux prises avec sa double origine.
Bon, on ne va pas s'attarder sur chaque Dampir qui a été créé, mais on va tout de même s'arrêter sur quelques dates, histoire de vous montrer à quel point les Dampirs sont présents dans notre pop culture. En 1991, le jeu de rôle Vampire la Mascarade présente les Dampirs comme issus de l'accouplement de vampires au sang fin avec un humain. Mais ils sont considérés comme pathétiques et comme étant un signe de l'apocalypse. En 1995, dans le second jeu de la saga Darkstalker, Night Warriors Darkstalker's Revenge, apparaît Donovan Bane, un moine bouddhiste chasseur de vampires qui a été victime de spécisme par les humains dans son enfance, à cause de sa différence. Mais il finira par céder à son côté vampirique. En 1996, dans la saga Nightworld, le personnage de Jeez Redfern est une dampire qui agit en humaine ou en vampire en fonction de ce qu'elle mange, que ce soit nourriture classique ou sang humain. En 1998, Blade est adapté sur grand écran. Une fois au cinéma, le personnage a légèrement été modifié. Il passe d'un anglais à un américain, mais surtout le cinéma lui offre une plus grande faiblesse au sang, car boire du sang augmente ses capacités de façon exceptionnelle, même s'il refuse de s'y abaisser. Par la suite, ce seront les comics qui se réadapteront pour se rapprocher de cette vision du personnage. En 2000, les Dampires sont mis en avant dans le comics italien Dampir. S'inspirant des vieilles légendes, le personnage d'Arlan Draka est un Serbe, se faisant passer pour un demi-vampire chasseur de vampires, avant de découvrir qu'il en est vraiment un. Il a la capacité de détruire les vampires avec une seule goutte de son sang, et peut même boire le sang des vampires, inversant pour la première fois les rôles. C'est aussi cette année-là que les Dampires font leur apparition dans la 3ème édition de Donjons et Dragons, puis dans la 4ème édition en 2008, les Dampires sont catégorisés non pas par race, mais par capacité. Toujours en 2008, le 4ème tome de Twilight révèle qu'Edward et Bella ont réussi à avoir une fille, faisant d'elle une Dampire. Et dans le livre, il est bien précisé que son cœur bat alors que celui des vampires, non. On découvre également que d'autres hybrides existent comme Nahuel, et qu'ils semblent avoir tous les avantages des vampires et des humains, sans leurs faiblesses respectives. Dans Vampire Academy, on apprend que les vampires Moroi peuvent se reproduire avec les humains, créant ainsi des Dampires à l'image de Rose Hathaway. Mais les Dampires sont assez faibles, et sont plus proches des humains que des vampires. Ils gardent quand même une force et une vitesse accrue, et servent donc de garde du corps aux Moroi contre les Strigoi. En 2015, dans le jeu Infinite Crisis, on découvre le personnage de Robin dans sa version cauchemar. Nightmare Robin est un Dampire librement inspiré de la trilogie de comics Batman Vampire. Celui-ci a hérité de la malédiction vampirique de sa mère Talia, et est donc humain par son père, qui, dans cet univers, finira par devenir un vampire. D'où le nom de Batman Vampire. Toujours en 2015, le second opus d'Hôtel Transylvanie sort au cinéma, et l'on découvre le fils de Mavis, la fille de Dracula, et de Johnny, un humain. Leur fils, Denis, est donc un Dampire. D'après ce que l'on sait, les demi-vampires ont 5 ans pour révéler leur capacité vampirique, sans quoi ils restent humains. Bon, il s'avère qu'il a bien des capacités. Et non, c'est toujours pas du spoil, hein, c'est sorti en 2015, depuis il y a eu 2 autres films et une série. Si vous l'aviez pas vu, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Et pour finir cette liste, je vais évidemment citer l'adaptation Netflix de Castlevania, qui a signé le retour majestueux d'un Alucard plus puissant que jamais, puisqu'il rivalise sans effort face à de vrais vampires. Il a également un style plus humain que ne le laissaient entendre les jeux, puisqu'il n'a pas de longues griffes ou des oreilles pointues, pleure de vraies larmes et non pas des larmes de sang. Et il peut même consommer de l'ail. Mais reste évidemment un chasseur de vampires ayant pour but d'éliminer son père.
Bref, notre liste pourrait être encore très longue puisque lors de nos recherches, nous avons trouvé pas moins de 160 vampires à travers la littérature, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la radio et même dans une comédie musicale de Sailor Moon. Cet épisode touche bientôt à sa fin. Alors, que dire finalement des vampires ? Eh bien, que malgré le nombre assez élevé de personnages à demi-vampires que nous avons trouvés, le Dampir reste malgré tout très peu utilisé. Il est majoritairement décrit comme un chasseur de vampires, mais pour le reste, rien n'est vraiment acté. Et quelque part, c'est assez logique, puisqu'à ce sujet, il y avait déjà à l'époque de très nombreuses descriptions à travers les Balkans. À la limite, ce qui a le plus évolué avec le temps, c'est la façon de devenir un demi-vampire. Mais même de ce côté-là, il reste sans doute énormément de marge de création.
je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur vos réseaux sociaux préférés, que ce soit Instagram, X, Facebook, Blue Sky et j'en passe. Sur ce, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il aura pu inspirer certains et certaines d'entre vous pour de futures créations. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous à très vite pour un nouveau moment de culture.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.